savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Savoir Plus. Cette semaine, on s'intéresse au domaine de l'éducation. Comment se déroulent les cours et l'enseignement à distance pendant cette épidémie de coronavirus? Nous avons voulu en savoir plus en questionnant différents niveaux, écoles, collèges, universités, et vous allez l'entendre, l'ensemble du personnel éducatif est mobilisé durant cette période délicate, qui n'est pas une période de vacances et où l'autorité parentale ainsi qu'une certaine autodiscipline des élèves s'avère indispensable. On commence avec les écoles, l'école primaire avec une classe de CM2, celle de Laurent Lemaire à l'école Marmottan de Bruay-la-Buissière, que Julien Maille de Radio Plus a interviewé par téléphone.
Alors Laurent Lemaire, vous êtes enseignant en CM2 à l'école Marmottan de Bruay-la-Buissière et vous êtes avec nous pour évoquer comment se déroule l'évolution de la situation depuis la fermeture des écoles, décidée par le président de la République Emmanuel Macron à partir du lundi 16 mars, décision annoncée dans son allocution aux Français du jeudi 12 mars. Première question, tout d'abord, avec ce contexte un petit peu particulier, comment allez-vous ?
Écoutez, monsieur Julien, très bien dans le sens où ma santé chez mes proches est tout à fait correcte, aucun signe d'atteinte du coronavirus. La plus grande difficulté, évidemment, c'est d'organiser de nouveau ces journées avec ce confinement. L'organisation de la vie quotidienne est complètement différente, hein, puisque d'habitude, évidemment, comme celle de la majorité et de l'ensemble des Français, elle est constituée par le lever et la direction d'un lieu de travail. Cette fois-ci, c'est complètement différent. Il faut apprendre à réorganiser ces journées, à les réorienter et à les occuper de façon productive la mieux possible.
Alors, vous avez donc appris cette information jeudi 12 mars avec la fermeture des écoles programmée pour le lundi 16. Comment est-ce que vous avez dû réagir face à cette nouvelle dans les établissements scolaires ?
Écoutez, d'abord, c'était assez surprenant, puisque si on remet un petit peu cette intervention dans un contexte historique un peu plus large, ce même jeudi à 7h40 sur les antennes de France Info, hein, une antenne que vous connaissez bien, Julien, le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, avait certifié que les écoles ne fermeraient pas. Donc la surprise était totale lors de la prise de parole du président de la République et de son annonce de la fermeture des écoles pour lundi, ce qui a fait que forcément, il ne restait que le vendredi pour s'organiser. Alors comment s'est-on organisé? D'abord, évidemment, on s'est réparti. Alors c'est un choix collectif dans l'école, c'est pas forcément une décision qui a été universelle dans toutes les écoles de France, et surtout pas, j'aurais la prétention de dire que c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a semblé le plus opportun de faire ce vendredi. Donc on s'est organisé pour déjà leur expliquer du pourquoi de la fermeture des écoles, pour essayer aussi de donner du sens à cette fermeture, pour dire que c'était pas non plus des vacances, c'était pas la fin du monde non plus, mais qu'il y avait des raisons sanitaires dans cette fermeture des écoles. Nous avons également fini également ce qui était en cours dans la semaine, parce qu'il fallait aussi que ces enfants gardent du sens dans leur apprentissage. Et puis ensuite, nous avons mis en place au moins du travail pour le lundi et mardi, de manière du travail concret, puisqu'on leur a donné sur forme de fiches et d'exercices. Et puis, nous leur avons fait noter pour leurs parents les différents sites sur lesquels nous allons poursuivre, on va dire, le télétravail, puisque nous allons leur envoyer le travail et les corrections de ces travaux par le site de l'ENT. Précisons également que, en remettant dans son contexte, ce vendredi-là, évidemment, on ne parlait pas de confinement. Donc ça veut dire qu'on s'était aussi organisé pour donner, pour être présent, pour assurer la continuité pédagogique, et c'est-à-dire recevoir les parents dans la semaine, à des jours précis et à des heures précises, non pas évidemment parce que nous sommes pointilleux ou tatillons, mais tout simplement d'abord pour respecter les gestes barrières et les règles sanitaires, et également aussi pour permettre évidemment aux parents de pouvoir s'organiser. Le but étant évidemment de les recevoir pour qu'ils nous parlent des difficultés ou des réussites que leurs enfants ont eues en faisant ces exercices, de l'aide supplémentaire qu'ils peuvent avoir, et nous également de leur expliquer la poursuite des travaux. Tout ça, évidemment, s'est modifié avec la décision de confinement qui nous a été imposée donc le lundi soir, hein, puisque le lundi matin, nous étions en réunion collective des enseignants avec évidemment cette organisation que je suis en train de vous expliquer qui s'était affiliée. Et le lundi soir, évidemment, tout s'est modifié puisque le président de la République a décidé d'un confinement à partir de midi le mardi.
Alors très concrètement, à l'heure où l'on se parle et sous réserve d'autres décisions qui pourraient être prises par le gouvernement et par Monsieur le Président de la République, il n'y a pas d'accueil et il n'y a pas d'enseignants présents dans l'école Marmottan de Bruay-la-Bussière.
Alors, étant donné que nous n'avons pas de personnel d'enfants, de personnel soignant, non. Pour l'instant, il n'y a pas de d'enseignants qui ont fixé des jours qui sont présents de façon régulière pour assurer la continuité pédagogique. Néanmoins, si le confinement perdure, et je pense qu'il va perdurer, je vais sûrement, et plusieurs enseignants vont sûrement donner des jours, peut-être, ou des dates, où les parents pourront passer à l'école, en respectant évidemment les gestes barrières, c'est-à-dire un mètre, en donnant des heures de, ou des moments précis d'intervention, c'est-à-dire qu'il y aura évidemment un seul parent dans la pièce avec moi-même, par exemple, en gardant les 1 mètre des gestes barrières, juste pour faire un petit peu le point et garder ce lien éducatif et pédagogique avec la famille, parce que c'est très très important quand même. L'éducation est d'abord une transmission, alors pas qu'une transmission de savoir, mais une transmission du vivre ensemble, une transmission de valeurs, et sans ce lien humain, ça n'a plus vraiment de sens. Donc il faut garder ce lien avec les parents qui pourront aussi dire ben voilà, c'est difficile ou c'est très facile pour lui, c'est, voilà, pour qu'on puisse aussi adapter de façon, on va dire, les plus justes les différents travaux, on va dire, de révision, de dire si on était dans, si on faisait en extrapolé de manière sportive, pour garder en forme l'élève avant le retour en classe. Voilà, donc ça sera un peu comme ça. Alors dans la transmission, pour l'instant, évidemment, tout se passe évidemment par l'outil informatique, puisque, comme vous venez de le dire, il n'y a pas d'enseignant présent, mais si le confinement perdure, on va évidemment essayer, avec l'autorisation évidemment des autorités de tutelle, d'avoir de garder des liens physiques avec les parents d'élèves.
On va avoir évidemment l'occasion de parler de tout ça plus en détail. Dernière question justement sur l'organisation de cette fermeture et sur la mise en place aussi de mesures pour assurer la continuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez été accompagné, guidé par le rectorat d'Académie?
Alors, moi directement non, parce que c'est plutôt une de mes collègues, mademoiselle Céline Coutel, qui est vraiment plus en avant là-dessus, qui nous a lundi remis tous les outils en place et tous les outils en main, en nous expliquant un peu le fonctionnement de l'ENT pour pouvoir transmettre aux différents parents et aux élèves le travail qu'on mettait en place durant la semaine. Voilà. On n'a pas eu directement, je pense que M. Caron, le directeur, a peut-être eu un contact direct avec le rectorat, mais ça a été tellement rapide qu'on n'a pas pu en discuter, sachant que c'est arrivé le vendredi matin, il fallait poursuivre les activités. Monsieur Caron a eu une réunion pour représenter l'école avec l'IEN. Donc l'IEN, je rappelle, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Bruay, pour lui transmettre un petit peu les différents ordres du ministère. Et évidemment, je vous l'ai déjà donné, ces ordres, c'était d'être présent à l'école pour assurer la continuité éducative. Et tous ces ordres-là n'ont duré qu'une journée, puisque ça a duré que le temps du lundi matin, puisque dès le lundi au milieu, on nous a demandé de faire attention parce qu'il risquait d'avoir des mesures de confinement. Et donc, ça a été officiel le mardi. Donc, tout ce qui avait été évidemment transmis le vendredi s'est retrouvé caduc. Enfin, une partie s'est retrouvée caduc dès le mardi midi ou dès le lundi après-midi, où les rumeurs ont circulé sur le confinement. Voilà.
Très bien. Alors on va aborder maintenant effectivement la question du travail des élèves chez eux avec des circonstances un peu particulières. Vos élèves, ceux à qui vous enseignez, sont en CM2. On est à un âge où on commence aussi à comprendre certaines choses qui peuvent concerner aussi les adultes. On entend beaucoup aux informations effectivement que les enfants sont les principaux vecteurs parce qu'ils sont potentiellement porteurs sains. Comment est-ce qu'on gère tout ça et comment est-ce qu'on explique aussi aux élèves, pour reprendre les propos du ministre Blanquer, que le confinement, c'est pas des vacances ?
Alors, c'est une question assez complexe parce que dire qu'il suffit d'avoir un tel ou tel discours pour que chaque enfant ait bien emmagasiné ça, donc j'y crois pas du tout. Chaque personne étant de façon différente, chaque élève l'a reçu de façon différente et surtout va le vivre de façon différente pour sa élève. Ce qui est important de travailler avec eux, c'est que en étant porteurs sains et au niveau du CM2, ils sont en âge de comprendre qu'ils pouvaient être un élément de dangerosité pour leur famille. Et on a essayé de bien leur expliquer qu'en aucun cas il était responsable que c'était un virus et que oui, il fallait faire attention et c'est pour ça qu'on mettait en place les gestes barrières à l'école, dans la classe, mais qu'en aucun cas, évidemment, il était responsable s'il transmettait ce virus à un membre de leur famille. Ça, c'était la première chose par rapport au fait qu'il soit porteur sain. La deuxième chose, évidemment, est-ce qu'ils ont compris que c'était pas les vacances ? Ils sont dans un âge où, quand on ils connaissent l'importance de l'école et l'importance que la société, en général, et quand je dis la société, c'est leurs parents, les institutions, et l'ensemble de la société française a par rapport à l'école. Et quand on décide de fermer l'école, d'un coup, comme ça, ils se sont rendus compte que ça devait être grave. Et que si c'était grave, et ben, quand c'est grave, c'est pas les vacances. Donc oui, ils ont vite compris que ça n'allait pas être les vacances, qu'ils allaient avoir du travail, ils n'ont pas rechigné parce qu'ils se disaient qu'ils n'étaient pas en vacances. Et à travers les différents messages que je reçois, ils sont en demande. Ils sont aussi contents d'avoir de mes nouvelles que moi je suis très très heureux d'avoir de leurs nouvelles et de leurs parents. Je pense que ils ont très vite compris qu'ils n'étaient pas en vacances. Alors là je parle pour mes élèves de CM2 et à mon avis pour beaucoup de CM2 dans toute la France. C'est sûr que pour les maternelles, on va pas se leurrer, ou alors il faut vraiment être très très fort, mais ça va être très très compliqué d'envoyer, de les faire comprendre cette notion qu'ils sont pas en vacances et du télétravail, et l'importance du télétravail quand on a 4 ans et demi. Effectivement, que ça soit très très efficace.
On peut imaginer effectivement que c'est très très compliqué à mettre en place. Alors, la mise en place, justement, de nombreuses remontées sont parvenues, notamment lundi et un peu moins mardi, comme quoi les connexions aux espaces numériques de travail et aux différentes plateformes qui sont à disposition pour les parents étaient très très difficiles. Est-ce que vous avez eu vous-même des remontées en ce sens ?
C'était très 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 difficile et je peux même témoigner moi en tant que papa puisque j'ai eu ma fille qui est en première et mon fils en quatrième que eux-mêmes n'ont pas réussi du tout à se connecter à leur espace de travail. C'est très très difficile. Alors, je pense tout simplement que ça répond aussi un peu à votre précédente question, c'est que ça bloque, c'est parce qu'il y a énormément de connexions. Et ça veut dire que les élèves eux-mêmes ont bien compris que c'était pas les vacances avec leurs parents. Donc il y a un grand nombre de connexions, peut-être trop, qui surchargent évidemment la plateforme. Et cette plateforme ne peut pas répondre à l'ensemble des connexions. Donc ça a été très très compliqué lundi, mardi et encore hier. Il y a même encore hier des élèves et des parents qui n'arrivent pas à se connecter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Je viens de recevoir un message avec une nouvelle plateforme qui doit être mise en place, un nouvel accès à une nouvelle plateforme. Et puis nous, de façon individuelle, enfin, quand je dis nous, c'est la CAS. Nous avions la chance d'avoir créé un Facebook fermé pour notre classe de neige où les parents de des élèves recevaient des photos en instantané. Et donc, ça me permet de doubler. Et je remercie évidemment encore les animatrices Marion, Julie et Élise d'alimenter ce Facebook, puisque c'est eux les organisateurs et les gestionnaires de ce Facebook. Et donc, je renvoie en copie ce que je mets sur le MNT en devoir et en correction de devoir, et il relaie également, ce qui fait que le travail est envoyé sous deux formes, soit par le MNT, soit par le Facebook, et ça permet aux gens qui sont bloqués sur le MNT, qui n'arrivent pas à accéder par leur propre code, ou parce que et ben ça décroche assez rapidement du fait du nombre de gens, d'élèves ou de parents connectés qui peuvent l'avoir par le Facebook. Et ça permet au moins à ce que je sois sûr que tout le monde ait au moins ce contact. Et en tout cas, même les messages, quand évidemment, je demande de leurs nouvelles et de leur santé.
Vous êtes toujours sur Radio Plus dans l'émission Savoir Plus et nous parlons ce matin du monde de l'éducation face au coronavirus. Et nous sommes actuellement avec Laurent Lemaire, instituteur en classe de CM2 à l'école Marmottan de Bruay-la-Buissière, interrogé par Julien Maille.
On voit effectivement que les pratiques peuvent différer selon à la fois les tranches d'âge et les établissements. On voit parfois des professeurs qui font des petites vidéos pour leurs élèves sous forme de cours magistraux. Là, on s'adresse effectivement à un public un peu plus âgé. On a des exercices qui sont publiés en ligne. Concrètement, quel travail vous leur donnez et comment est-ce que sous quelle forme ça se présente ?
Alors, pour l'instant, très clairement, puisque nous serons ce soir à une semaine de la décision de la fermeture, collectivement sur l'école d'Armentan, pour l'instant, on a travaillé que sur, on va dire, de l'entretien de connaissances ou de la révision, de la vérification des acquis. Donc, ce sont plus des exercices pour l'instant assez basiques de mathématiques, hein, de calcul, de numération, sur les nombres décimaux, les fractions, soit à travers des numéros, alors ils ont évidemment parti avec leur livre qu'ils ont en classe, où, donc c'est soit des exercices qui sont sur le livre, soit des exercices que je crée, que j'envoie soit sous forme de PDF, soit directement sur le cahier de texte, des exercices d'orthographe, d'accord, dans le groupe nominal, des exercices de conjugaison et de grammaire. Donc pour l'instant, voilà, ce sont des exercices basiques qu'on n'a pas encore sur cette semaine. Je n'ai pas encore envoyé d'exercices ou des révisions sur les notions d'appel d'éducation humaniste, histoire, la géographie ou la science. On va voir un petit peu la semaine prochaine. Et puis, en fonction de la date de la reprise des cours, nous verrons un petit peu si nous allons mettre en place des apprentissages, on va dire, nouveaux, mais quid évidemment d'une difficulté qui va être supplémentaire, c'est d'abord l'équité et l'égalité républicaine. Est-ce que tout le monde a les outils informatiques nécessaires pour pouvoir avoir ces apprentissages de devant soi ou devant eux? Et puis quid évidemment de la difficulté scolaire, hein, puisque forcément les élèves ayant à côté d'eux une personne, on va mettre le terme éducatif, l'AVS, à côté d'eux, qui vient en soutien et qui aide ses élèves en difficulté. Et évidemment, si cette personne est présente constamment dans la classe et qu'elle a raison, là, il n'y sera plus. Donc, voilà, l'apprentissage, les apprentissages nouveaux peuvent être quand même source de difficultés scolaires supplémentaires. Mais voilà, il va falloir une réflexion individuelle chez moi, une réflexion collective avec mes collègues, pour voir si la durée du retrait des élèves des classes est assez conséquente, pour voir comment on va pouvoir y remédier. Et quand je dis évidemment assez conséquent, c'est que pour l'instant, nous, il nous reste évidemment normalement maintenant 3 semaines pour atteindre les vacances. Ensuite, donc évidemment, nous laisserons évidemment les élèves comme si c'était des vacances, et après voir si la reprise des cours est officielle pour le début mai, qui serait la fin pour des dernières zones de vacances, ou si comme certains indiquent, plutôt vers la fin mai ou début juin. Et là, ça serait déjà un peu plus embêtant, puisque pour les élèves, évidemment, de la zone B en général, ça nous ferait 3, 4, 5, 6, 7 voire 8 semaines hors des établissements scolaires, ce qui pourrait quand même faire une période complète, quoi. Et ça pourrait déjà être très, très embêtant pour les apprentissages.
Et vous êtes justement élève en CM2, une année charnière, l'année juste avant le collège. Vous êtes inquiet ?
Alors, inquiet, si on en admet, pas vraiment, on mettra les bouchées doubles et on fera malheureusement peut-être certains raccourcis dans certains domaines qui ne seront pas forcément, on va dire, primordiaux ou sachant peut-être qu'ils sont repris au collège et donc ça ne sera pas handicapant pour les élèves. Si on arrive sur le milieu du mois de mai ou fin mai, début juin, il faudra avoir une discussion également avec l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, puisqu'évidemment pour les élèves de CM2 qui sont une année dernière avant d'entrer dans le secondaire, ça peut poser problème, mais ce sera évidemment la même chose pour les élèves du troisième. Ils vont rentrer évidemment au lycée. Je pense également dans le pensée pour les élèves qui sont en terminale. Peut-être certains sont en train de nous écouter et qui doivent passer le bac à la fin de l'année. Bon, c'est évidemment que ça va être source d'angoisse un peu pour tout le monde, mais il va falloir quand même qu'il y a un moment où on s'y penche très très clairement avec des décisions qui sont pertinentes et collectives, sachant que aucun des élèves n'est responsable de ce qui se passe et qu'il va falloir être dans la bienveillance et dans l'accompagnement. Alors évidemment, plusieurs courants et plusieurs sources d'informations, plusieurs rumeurs courent avec évidemment peut-être l'allongement des cours scolaires en juillet et en août, puisqu'évidemment les programmes sont assez conséquents, il y a des choses à faire et même des choses administratives pour nous, enseignants, hein, il y a des documents pour l'entrée en sixième, etc. Donc ça voudrait dire quid, évidemment, de l'éducation populaire, des séjours vacances qu'on appelait avant colonie, des accueils de loisirs qu'on appelait avant centre aéré, donc aussi encore des choses à enlever, quid évidemment du tourisme. Voilà, donc ça va être évidemment des choix à faire, ou est-ce que voilà, on intègre ce manque et on repositionne l'année suivante en enlevant peut-être des semaines de vacances à la Toussaint ou ailleurs pour pouvoir permettre aux élèves, en ayant passé à un niveau supérieur, de combler le manque qu'ils n'ont pas eu sur l'année 2019-2020, il va y avoir plusieurs, à mon avis, plusieurs possibilités et plusieurs, à mon avis, schémas doivent être pensés là-bas tout en haut à Paris, mais il faudra vite décider et vite mettre tous les acteurs du système éducatif autour de la table pour en discuter.
Au-delà de la question pédagogique et de la capacité à assimiler rapidement des apprentissages, pour certains, va se poser aussi la question du redoublement ou à l'inverse aussi du passage en classe supérieure. Des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre, y compris en temps normal. Est-ce que le risque n'est pas, à la rentrée scolaire 2020-2021, d'avoir des classes encore plus chargées qu'auparavant, avec des élèves qui n'auraient pas pu prendre le train de la classe supérieure, et donc des classes qui ne sont plus à 25, 26, 27, mais à 30, 31, 32?
Ben ça va être un risque aussi, mais là surtout c'est ça va être pour finir l'année et par rapport à la correspondance de votre question de savoir le passage dans l'élément supérieur, les élèves tout dépend comment on va terminer l'année. Il est clair que si on décide que on va compresser l'année et qu'il y aura des choses à récupérer, il va falloir quand même avoir un jugement qui sera sur un temps très court, puisque si on reprend mieux le début mai jusque fin juin, en enlevant les jours fériés si on les laisse et les samedis dimanches, ça va faire très peu de jours d'activité pour finaliser sa décision. Le plus grand problème, en dehors de ça, va être surtout d'avoir justement un jugement efficient, même si c'est vrai, quand on arrive au mois d'avril, on a quand même un regard qui est quasiment objectif, c'est sûr, sur 90% des élèves. Évidemment, les 10% qui restent, c'est les élèves que on va tout faire pour les pousser, pour réussir leur année scolaire et pouvoir accéder au supérieur. En aucun cas, évidemment, le but étant évidemment la réussite de tous les élèves. Donc, on est dans ce contexte-là, mais pour les élèves qui sont, c'est vrai, un petit peu fragiles dans les acquis, un peu fragiles dans leurs apprentissages, un peu fragiles dans leur relation à l'école, s'il reste un mois et demi, il va falloir vraiment faire plein de choses. Il se pourrait que ce sera très difficile pour eux de garder la tête au-dessus de l'eau.
Et ça, c'est une réalité aussi, effectivement, à prendre en compte. Alors, en ce qui concerne le lien avec les parents, est-ce que vous échangez justement avec les parents en cette période un peu compliquée ?
Oui, à travers l'UNT, certains arrivent à m'envoyer des messages, et puis à travers le Facebook, oui, ils peuvent évidemment envoyer des messages sans problème. Oui, on va communiquer, et réellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je n'imposerai pas, hein, puisque évidemment, il y a des règles de sécurité, et je peux très bien comprendre que certains parents ne voudraient pas avoir de contact en dehors de chez eux avec d'autres personnes, mais voilà, il n'est pas impossible à voir comment ça se joue et les différentes interventions qu'on va avoir avant la fin de semaine et peut-être en début de semaine prochaine, qu'au milieu de la semaine prochaine, je propose de rencontrer les parents, comme je vous l'ai dit, en respectant les gestes barrières sanitaires, pour que tout le monde soit en sécurité, en mettant des horaires bien précises pour chaque parent volontaire pour venir me voir, pour qu'on puisse discuter évidemment de l'évolution de leur enfant, de leurs ressentiments, des questions qu'ils se posent, pour voir un petit peu comment on peut remédier et surtout comment on peut traverser cette période nouvelle, stressante, on va dire, au mieux pour eux-mêmes et pour leurs enfants.
Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aux parents qui nous écoutent pour faire face à cette situation qui n'est pas facile ni pour eux en tant que travailleurs mais aussi en tant que parents avec les enfants à gérer où il faut être à la fois nounou, enseignant et puis parents, père et mère de famille?
La première chose, c'est de garder patience parce que forcément, ça va être très difficile. Très difficile non pas parce que déjà le rôle de parent est très difficile. Et je sais parce que je le suis, et tout parent sait que ce rôle est difficile, voilà. Donc, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais parce que moi aussi, je peux aussi, parfois, comme tout le monde, sortir un peu de mes gonds, mais garder patience parce que le stress de l'extérieur, les informations qu'on reçoit quand on est adulte et responsable de ses enfants, on est forcément stressé, un peu inquiet. On y rajoute ça le confinement, de ne pas pouvoir sortir et le fait qu'on tourne très 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 vite en rond. Et plus ajouter à ça l'inquiétude, évidemment, de la poursuite de la scolarité de ton enfant. Peut-être évidemment les enfants qui, oui, ont envie de travailler, mais pas de façon constante, comme quand on est dans l'école. Donc bon, parce que c'est simplement que le fait dans une école dans la collectivité qui travaille, ça attire le groupe. L'école a aussi ce sens-là, c'est d'apprendre le vivre ensemble, et ce vivre ensemble et cet effort collectif que nous demande le gouvernement et travailler dans les écoles. C'est pour ça que le groupe classe, l'effet classe, fait que là, de façon individuelle, c'est toujours plus difficile. Et c'est plus difficile pour chacun d'entre nous. Hein, c'est pas uniquement parce que ce sont des enfants et que le parent a du mal à les faire travailler. Chacun d'entre nous, évidemment, quand il n'est pas sur son lieu de travail et quand il doit travailler chez lui, est quand même parfois moins productif, puisque évidemment, on a plein de phénomènes de distraction, et puis surtout on peut s'arrêter, parce que si on s'arrête, personne ne lui dirait, c'est pas le moment de s'arrêter. Donc voilà, c'est déjà aussi, donc il faut être patient. Alors, moi aussi, j'essaye d'être compréhensible là-dedans, en essayant de ne pas donner aussi une quantité de travail il faudrait aller 4h30 consécutifs pour tout faire. Le but est évidemment de garder l'esprit de l'enfant en fonction, enfin, je veux dire, que l'enfant continue à travailler aussi avec sa tête. Ah, je veux dire, c'est aussi ça, c'est de la répétition, c'est de l'entraînement, comme dans le domaine sportif. Donc, le travail qu'on leur propose, il est également pour ça. Et voilà, les parents, j'en demande, voilà, d'essayer de leur permettre de réaliser ça en gardant patience et surtout d'abord en prenant soin d'eux et de leur voix.
Ma station, ma région, ma passion.
Voilà, c'était l'interview de Laurent Lemaire, instituteur en classe de CM2 à l'école Marmottan de Bruay-la-Bussière, qui était interrogé par Julien Maille de Radio Plus. Alors, à l'heure où je vous parle, le scénario qui est jusqu'à présent privilégié par le gouvernement est celui d'un retour en classe le 4 mai. C'est ce que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait déclaré au quotidien Le Parisien le 22 mars dernier. Et puis, sachez que nos confrères du service public de l'audiovisuel se mobilisent avec l'État, puisque France Télévisions, Radio France, Arte et l'Éducation nationale mettent à disposition des élèves et de leurs parents, depuis le 18 mars dernier, des programmes audiovisuels labellisés Nation Apprenante, programme que vous pouvez retrouver à l'antenne, mais aussi sur le web, notamment sur Lumni, la plateforme éducative de l'audiovisuel public qui est accessible à tous, ainsi que sur Educarte, une plateforme éducative de la chaîne franco-allemande accessible aux enseignants et à leur classe. On fait une petite pause avec Robbie Williams et Suprême.
Today, all the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive. Call l'amour, les couleurs. Que te reste-t-il pour survivre ici-bas? Dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Vivre ici-bas, dans le meilleur de toi-même, et tu trouveras l'amour suprême, l'amour suprême.
11h passées de 36 minutes sur Radio Plus, c'était Robbie Williams à l'instant. Vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus et à présent nous allons retrouver Christophe Pasquier qui s'est entretenu avec Séverine Gosselin, la principale du collège Antoine de Saint-Exupéry à Douvrin, afin de connaître la manière dont l'équipe éducative, les élèves mais aussi les parents s'impliquent pendant cette période de confinement.
Bonjour, aujourd'hui je suis avec Séverine Gosselin qui est principale du collège de Douvrin. Bonjour Madame Gosselin.
Bonjour Monsieur.
On vit un moment particulier, les élèves sont chez eux, avec leurs parents en général, avec aussi peut-être leurs animaux de compagnie. On est dans une ambiance vraiment particulière, c'est la première fois en France où on se retrouve dans une situation de confinement qui engendre chez certaines personnes du stress, de la panique, puis en même temps un petit peu de désordre. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, Madame Gosselin, expliquer aux parents, aux auditeurs également, comment ça fonctionne le collège quand on ne peut pas y aller?
Bah, comme vous l'avez dit, hein, monsieur, c'est une situation inédite. On essaie de garder le contact avec les élèves et leurs parents. Hein. Ça, c'est vraiment un gros travail pour tous. Hein. Tout le monde est sur le pont. L'idée, effectivement, c'est d'accompagner et de rassurer tout un chacun. Nous avons des élèves qui n'ont pas toujours les outils numériques et informatiques, on va dire adéquates. Donc on doit être très soucieux de leur apporter de l'aide. Toutes les équipes donc sont à mes côtés pour appeler les familles et les élèves. Donc ce qui ressort de cette situation, c'est que chacun a besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Mais voilà, je peux dire que je suis très fière du travail des équipes. Quand je regarde les cahiers de texte, on sent que les équipes sont bien conscientes des difficultés et veulent accompagner toute leur classe. On voit bien que dans les cahiers de texte, on est dans une logique de révision. Donc voilà, les enseignants, les équipes cherchent à trouver les moyens les plus ludiques pour permettre aux élèves de revoir ce qui a été fait dans les classeurs, dans les cahiers. N'hésite pas à utiliser des sites pédagogiques, des sites personnels, à trouver des outils pédagogiques, que ce soit sur les sites, on va dire, officiels, académiques, ou sur d'autres supports, hein, ça peut être YouTube. Je pourrais, j'ai en mémoire, après lecture des qualités de lire de toutes les classes, voilà, je pourrais émailler mon discours de petites anecdotes, de petits discours des professeurs qui passent par l'humour, qui trouvent des activités ludiques. L'idée, c'est vraiment de laisser aucun élève sur le bord du chemin et de permettre aux élèves, qu'ils soient seuls ou accompagnés, de pouvoir réviser, consolider leurs acquis et surtout rester sereins. Je pense qu'on a des adolescents hein, qui ont entre 11 et 15 ans. On doit être là pour les accompagner au mieux. Et on leur a aussi rappelé qu'ils devaient se détendre, passer du temps avec leurs proches, c'est important. Hein, vous l'avez dit, certains ont des animaux de compagnie qui ont une grande place dans leur vie. Et je pense que voilà, ce sont de bons moments. Ils ont du temps. Qu'ils profitent un maximum et aussi qu'ils prennent du temps pour s'abonner à d'autres activités. C'est le conseil qu'on leur a donné aussi.
Comment vous travaillez avec vos collègues du collège par visioconférence, par texto, par mail? Comment cela se passe-t-il?
Alors, si vous voulez, depuis l'an dernier, Madame Carré, mon adjointe et moi-même avons mis en place un outil, un logiciel qui est Pronote, qui est une vraie plateforme de communication et qui est un bon moyen de garder le lien. Par ce biais, les professeurs voilà, sont en lien direct, hein, sous forme de chat, sous forme de texto quelque part, hein, ou de mail avec les élèves et les parents. Ça peut être des envois individuels ou collectifs. En parallèle, les professeurs s'adonnent maintenant aux classes virtuelles, puisque le ministre l'a rappelé, hein, le CNED a mis des outils en ligne. Il y a d'autres dispositifs pédagogiques hein, qui permettent les classes virtuelles. Et parfois, il y a des réseaux sociaux qui peuvent être utilisés par les élèves. Hein. Il y a beaucoup de groupes classes qui ont été aussi, on va dire, enrichis, hein, qui existaient peut-être, mais qui ont été enrichis. Donc, en fait, on a un lien direct avec les équipes par mail et par téléphone, puisqu'on essaie aussi de garder un contact, on va dire, vivant aussi avec nos équipes.
Hein. Avec Radio Plus, on va essayer de travailler ensemble et aussi de permettre, pourquoi pas, aux parents comme aux enfants, aux élèves, aux collégiens, d'échanger pour éviter justement qu'il y ait trop de questions de poser. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce que vous avez des questions à poser aux élèves? Et comme ça, la radio pourra être organe de diffusion et on pourra partager un peu les expériences des uns et des autres.
Alors, je pense que le premier conseil, c'est de faire en sorte de se connecter sur Pronote. On a vraiment une plateforme qui permet de mutualiser, de communiquer, de simplifier la communication. Maintenant, bien sûr, tout le monde peut ne pas se connecter à Pronote, hein, c'est parfois difficile avec un téléphone. L'idée, c'est qu'on puisse trouver des solutions. Hein. Certains élèves font des photographies de leurs travaux ou échangent avec leurs camarades. Moi, je vous rejoins complètement et je vous remercie pour cette proposition. L'idée, c'est qu'on connaisse les élèves qui sont en situation de difficulté dans les meilleurs délais pour pouvoir trouver ensemble des solutions.
Très bien. Donc, un appel aux ondes. Sachez que le répondeur de Radio Plus est ouvert à toutes les initiatives. Là, d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons eu un message d'une infirmière libérale qui réclamait des masques. Voilà, donc on va le diffuser également. Hein. Tout ce qui passera à travers les micros, ce seront des choses utiles hein, et aussi agréables, si possible. Voilà, donc on lance l'appel aux jeunes, aux collégiens, aux parents qui souhaitent poser des questions ou alors qui rencontrent une difficulté hein, sur Pronote, peut-être perte d'un mot de passe ou bien comme là on a eu pas mal de retours où les fichiers ne devaient pas être supérieurs à un certain poids mégaoctet. Je pense que vous avez dû, enfin peut-être pas vous particulièrement, mais les personnes qui gèrent le site ont amélioré cette situation en augmentant, je pense, les données.
Tout à fait. Alors, pour revenir sur ce dernier point, effectivement, on a un outil Pronote, hein, donc c'est un logiciel privé hein, qui est très coûteux hein, pour l'établissement, mais qui présente encore quelques déficiences. Donc, on a l'occasion de faire remonter, par exemple, cette difficulté. On est limité à 9 mégaoctets. Mais sachez que nos équipes cherchent spontanément des solutions alternatives. Hein. Je pense que j'ai demandé à chaque professeur de donner son adresse mail. Les parents ont eu des adresses mail en parallèle. Bien sûr, on a donné un numéro d'urgence que je peux rappeler, le 06 32 14 34 07. 06 32 14 34 07, où là, j'ai reçu beaucoup d'appels depuis la semaine dernière, puisque c'est bien normal, bien naturel. On doit aussi aider les élèves à se connecter sur le site, puisque certains n'étaient pas sur le compte élève, mais sur le compte parent. Et le conseil, effectivement, c'est de passer par cette radio qui est agrémentée Éducation nationale. Hein, ça, je pense qu'on peut le souligner. Vous êtes un partenaire, je vous remercie. L'idée, ça serait de faire remonter des difficultés pour qu'on trouve des solutions et que chaque élève puisse travailler dans les meilleures conditions. Je vous ai pas non plus dit que les professeurs avaient eu cette consigne de donner dès le lundi le travail pour la semaine, de façon à ce que chaque élève puisse accompagner ou non se structurer dans son organisation et son emploi du temps. Et c'est vrai que ça peut être aussi l'occasion, grâce à la radio, de mettre en valeur toutes les solutions que les équipes, et je salue leur travail, leur dévouement, hein, il faut le souligner. Et là, je pense que les parents, en ce moment, se rendent compte de ce qu'est le métier de professeur. J'ai eu d'autres retours, même mon chef de restauration qui est papa me disait « Waouh, professeur, c'est un métier ». Effectivement, là, je pense que les parents se rendent compte de la complexité du métier. Hein, c'est un métier qu'on doit saluer, c'est un très beau métier, mais très complexe. Et donc, ça peut être intéressant que, bien sûr, on liste les difficultés et qu'on trouve des solutions, mais que dans un second temps, les élèves puissent mettre en valeur toutes les solutions trouvées avec leurs professeurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Absolument pas, ça fait partie de notre rôle aussi de radio de proximité. Merci beaucoup Madame Gosselin, et puis on aura l'occasion d'échanger dans quelques temps pour voir un peu l'évolution de la situation, et également si vous avez des nouveaux conseils à donner. Donc je rappelle le numéro de téléphone de Radio Plus, 09 52 22 22 07, pour toute question sur Pronote, sur l'éducation, et en même temps sur vos difficultés que vous pouvez rencontrer, tout particulièrement avec la destination plutôt des collégiens du collège de Douvrin. Voilà, merci beaucoup Madame Gosselin.
Merci Radio Plus et bonne journée à tous et bon courage à tous. L'AFM que j'aime,
Radio Plus.
Dido à l'instant sur Radio Plus avec Here With Me. On termine cette émission avec le témoignage d'étudiants de l'IUT de Lens qui sont en DUT tremplin pour ensuite éventuellement accéder à des formations en multimédia. J'ai essayé de les interviewer en visioconférence. Malheureusement, la liaison était assez mauvaise, mais les propos demeurent compréhensibles. Voici leur témoignage. Comment vivez-vous le confinement imposé par le gouvernement actuellement ? Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça ?
Ben, c'est énervant de rester enfermé, mais c'est compréhensible, quoi.
Pour moi, ce serait bien si tout le monde le respectait vraiment, parce qu'on a vu qu'à Paris, il y avait beaucoup de gens encore qui sortaient dehors et tout, et c'est pas bien respecté.
Du coup, on a vu sur Le Parisien que ça allait sûrement augmenter le confinement à cause de personnes qui sortent, et du coup, c'est dérangeant pour les personnes qui respectent.
Est-ce que vous vous déplacez parfois, ou est-ce que vous restez vraiment tous et toutes confinés chez vous ?
Moi, personnellement, confiné.
Moi aussi, je reste tout le temps chez moi. Pour l'instant, je suis pas sorti de chez moi.
Oui, moi aussi.
Encore juste dans mon jardin ou quoi.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillent à côté, qui doivent aller justement travailler, qui ont besoin d'une attestation par exemple ?
Moi je travaille, mais mon travail est en fermé.
besoin. Je devais en faire une et au final, comme ça a fermé, j'ai plus besoin.
D'accord. C'était quel genre d'entreprise ?
McDonald's.
Donc là,
en
ouais.
Fait, mon directeur de restaurant a décidé de fermer le drive.
D'accord.
Pas obligé de faire une attestation.
Comment ça va se passer pour vous, pour les examens ? Est-ce que vous en avez prévu ?
En BD, en bande de données, il compte peut-être nous faire un examen.
Ouais. À quel moment ?
On sait pas du tout. Il a dit qu'il allait peut-être nous faire un examen, il était même pas sûr, mais normalement il devrait nous en faire un, mais voilà, il sait pas.
D'accord.
Et après, en mathématiques, donc on en a déjà fait, du coup je sais pas si elle compte en refaire. Notre vrai examen en soi c'était le stage, c'était pour valider, mais c'est annulé maintenant.
Ouais.
Avec Marise Roger, on a encore rien de prévu. Et en CDN, on a encore rien de prévu, il me semble. Et c'est tout.
CDM, c'est.
La conception de documents numériques.
Oui.
D'accord, conception de.
On apprend à faire des sites web, c'est tout ce qui est développement web.
Est-ce que vous êtes inquiet par contre par rapport aux examens et aux stages ?
Bon, c'est dérangeant pour le stage, mais d'un côté. Ça retient un peu parce que c'était dur de trouver dans ce qu'on voulait faire. Moi, j'allais sûrement me retrouver dans une école maternelle parce que j'étais pas sûr de trouver dans l'endroit où je voulais aller. Mais d'un côté, je suis un peu deck quoi parce que c'était cool.
Donc, est-ce que vous avez du coup des périodes d'examen là bientôt qui risquent d'être annulées du coup ou pas ?
Bon, nous, non, pas tant que ça. On n'a pas de période d'examen.
Nous, on n'avait pas d'examen.
C'était vraiment le stage d'examen.
D'accord, le stage c'était l'examen, d'accord. Et donc là, pour l'instant, donc tous les stages, si je comprends bien, sont reportés.
Sont totalement annulés.
Totalement annulés. Et ça ne remet pas en cause, a priori, votre année ?
Ben, on sera noté exclusivement sur le contrôle continu.
D'accord. Est-ce que vous arrivez à travailler correctement en ligne avec les espaces de travail qui vous sont dédiés ? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde ou est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des difficultés pour se connecter dans les espaces de travail, par exemple ?
Non, ça va.
Alors, pas tous en même temps, bien sûr. Essayez de répondre à la fois.
J'allais dire que pour l'instant, ça se passe bien. Les professeurs arrivent à utiliser le... Enfin, la plupart des profs utilisent Discord.
Ouais.
Et qu'on arrive à mettre ça en place avec des devoirs à rendre sur Moodle, des présences à cocher sur Moodle.
D'accord.
Et pour l'instant, ça se passe bien.
D'accord, donc plutôt positif et vous arrivez à vous organiser chez vous, à garder un rythme de travail soutenu ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué ?
C'est un peu plus compliqué en vrai. Je sais que le matin, moi, j'ai du mal à me lever quand je sais que j'ai pas bougé de chez moi. J'aime bien beaucoup sortir et notamment, je sais pas, la LUT, ça nous faisait sortir juste ça. Et savoir que je me réveille pour rester devant un PC, ça me saoule un peu.
Ça peut être plus compliqué de se concentrer devant son bureau. On a l'habitude de faire autre chose que de travailler, mais.
Mm-hmm.
Mais ouais, ça a soit d'être discipliné pour pas se distraire.
À l'instant, des étudiants de l'IUT de Lens qui répondaient à mes questions sur leurs conditions de travail en cette période délicate. Voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus, exclusivement consacrée au monde éducatif qui mène le combat à sa manière face au coronavirus et qui essaye de s'adapter au confinement et de poursuivre ses activités. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Radio Plus, le www.radioplus.fr. À bientôt.